des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre.
Nouvelle rencontre.
Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
Cube Radio.
Une radio pas comme les autres.
On a parlé beaucoup aujourd'hui du fait que Safia Nolin a exprimé son irritation de voir que Marie-Pierre Morin tente un retour dans l'œil du public. Et en ce, mes invités, mes collègues, Julia Pagé et Rémi Villemur, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez de cette histoire-là. Je te donne la parole, Rémi, en premier. Ah ben, Julia, on va commencer avec Julia.
Super. Ben, écoutez, il s'est passé quelque chose de vraiment absurde avec le cas Marie-Pierre Morin et Safia Nolin. On a commencé pour une des premières fois à se préoccuper du sort des agresseurs, presque plus que de celui des victimes. Je pense que je pourrais faire comme une thèse de doctorat sur la façon dont Safia Nolin a été traitée dans toute cette affaire, parce que c'est une représentation parfaite du traitement qu'on réserve à celles qui décident de parler avec assurance. C'est aussi le traitement qu'on réserve à celles qui ne correspondent pas aux standards de beauté, à celles qui sont issues des communautés LGBT. Leur voix est systématiquement diminuée. Tout ça au rapport, là. Ceux qui disent non, c'est juste parce qu'il faut que les gens puissent reprendre leur carrière. Faut vraiment s'ouvrir un peu les yeux sur tous les facteurs qui sont à l'œuvre. Puis, si Safia Nolin dit vrai dans sa publication, honnêtement, et je sais pas pourquoi elle mentirait, là, disons-nous-le, là, je vois pas vraiment les motifs qui pourraient favoriser un mensonge. Donc, si elle dit vrai, c'est une nouvelle qui mérite tout à fait d'être largement partagée. Là. Elle raconte que plusieurs demandes d'entrevue pour parler de son nouvel album ont été annulées après qu'elle ait refusé de parler de Marie-Pierre Morin aux intervieweurs. Elle dit que, comme pour Philippe Bonne, tout le monde dans le milieu savait que personne n'a rien dit. Elle dit que son cas n'est pas un cas isolé. Elle raconte que sa santé mentale, sa sécurité, sa carrière ont été extrêmement atteints. Alors moi, j'en appelle vraiment à la gentillesse, à la sensibilité toute simple, puis vraiment développer un peu son empathie par rapport à ça et peut-être prendre un pas de recul parce que la situation est très très chaude, très heated, comme on dirait en anglais. Faut prendre un peu de recul, travailler son empathie parce que vraiment, le camp qu'il faut choisir est assez clair.
Mais doit-on choisir un camp, Julia? C'est ça la question que je me pose. Est-ce que il faut avoir de l'empathie pour Safia Nolin, dénoncer les agressions, l'harcèlement notamment sur Internet qu'elle subit, sans nécessairement devoir plier à Madame Morin, elle n'a pas de deuxième chance, puis il faut la cacher.
Ben, c'est ce qui me fascine dans le cas Morin-Nolin, parce que c'est une des premières fois où on dit est-ce qu'on doit vraiment choisir un camp? Alors que dans les autres histoires, on dit pas, c'est l'exemple extrême, là. Est-ce que Harvey Weinstein devrait avoir une deuxième chance? Est-ce qu'on doit vraiment choisir un camp entre les victimes de MeToo et les agresseurs? Mais bien sûr qu'on doit choisir un camp. Bien sûr, il y a des victimes et il y a des agresseurs. Ça veut pas dire que Marie-Pierre Morin est condamnée à vivre dans l'ombre pour le reste de sa vie. Mais ça veut pas dire que du moment où elle remet les pieds dans la lumière, il faut oublier ce qui s'est passé.
Non, bien sûr.
Oui, puis Safia Nolin dit une chose qui est vraie pour la majorité des cas d'agression, c'est jamais un cas isolé. Donc, il y a quelque chose qui fait référence à un système qui a permis ça, puis ce système-là, il existe encore.
Rémi, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. On dirait que c'est tellement délicat qu'il y a 50, je ne vais même pas utiliser ce chiffre, qu'il y a 10 nuances dans ce débat-là.
Ouais, ben en fait, je pense que le vrai problème avec cette affaire-là, c'est que Safia Nolin, de moins en moins, on la prend au sérieux. Je veux dire, elle s'exprime tellement souvent sur le sujet, puis elle prétend à chaque fois que c'est réfléchi, que c'est une opinion qu'elle laisse mariner à l'intérieur d'elle depuis des semaines. Puis là, la dernière fois qu'elle s'est exprimée, il y a quelques jours, c'est un message truffé d'erreurs d'orthographe qui est publié en ligne. Pas de structure, un espèce de franglais... un peu dégoulinant. Donc, on a vraiment l'impression qu'elle a réfléchi à ça juste 30 secondes, qu'elle a publié ça. Puis c'est une auteure, quand même, quelqu'un qui écrit ses chansons. Puis le message est décousu complètement. Donc là, on se dit, est-ce qu'on est devant le sentiment fondé de quelqu'un ou on est devant une humeur passagère? Et là, si on est devant une humeur, ben on n'a peut-être pas tout à fait d'intérêt, en fait, face à ça. Tu sais, ça nous affecte quelques secondes, puis il y a beaucoup de gens qui prennent ça un peu en riant, parce qu'ils se disent, elle revient encore à la charge, elle dit constamment...
Mais c'est tout de même une victime d'une agression sexuelle, une victime de gestes déplacés de la part de Marie-Pierre Morin?
Oui, c'est une victime de gestes déplacés, agression sexuelle, je sais pas, là, je vous avoue, là, est-ce que c'était fait mordre sur une jambe dans un bar? Est-ce que c'est ça, ouais?
C'est pas mal ça.
OK. Bon, écoutez, c'est peut-être une agression sexuelle, mais la plupart des gens au Québec semblent avoir passé l'éponge. Elle-même, elle dit qu'elle veut passer l'éponge. Elle dit qu'elle veut plus en entendre parler, mais elle revient encore dans les médias pour en parler. Donc, tu sais, c'est comme une espèce de narcissisme qui ne se fatigue jamais, là, l'égocentrisme qui ne se fatigue jamais. Moi, je pense que pour son bien à elle, puis c'est sans condescendance, je pense qu'elle devrait véritablement écouter son cœur qui lui dit « passe à autre chose », donc « passe à autre chose ».
Julien, j'aimerais savoir pour toi, est-ce que la victime, dans ce cas-ci, Safia Nolin, devrait contribuer à déterminer la peine, déterminer si on doit ou pas revoir Marie-Pierre Morin, déterminer si c'est le temps de sa réhabilitation ou pas? Ou est-ce que c'est un peu contraire à notre système de justice, après tout?
Oui, c'est vrai que c'est contraire à notre système de justice, mais il faudrait les écouter plus. Dire que Safia Nolin est narcissique parce qu'elle dénonce une agression, je veux dire, j'en tombe de ma chaise, là, et de dire que son message est illisible, truffé de fautes, je veux dire, Rémi, le message est parfaitement lisible et contrairement à Marie-Pierre Morin, il n'y a pas de firme de communication qui l'a écrit pour elle. On n'a vraiment pas besoin d'une énième personne qui discrédite la voix des victimes sur des motifs relativement ridicules. Là. Puis le fond de l'histoire est vraiment important. C'est grave ce qui s'est passé. Puis le système de justice a quelques réponses, mais c'est vraiment en développant une empathie puis une écoute qu'on est capable de voir ce qui est bon pour les victimes et ce qui est bon pour les victimes futures. Parce que ce qu'on oublie, c'est que Safia Nolin a aussi empêché nombreuses agressions de se produire. Parce que visiblement, Marie-Pierre Morin avait un certain pattern. Il y avait l'alcool qui était en jeu, la cocaïne. Mais donc, il y a cette idée que quand on écoute les victimes, on empêche d'autres agressions de se produire, même si le système de justice ne s'en mêle pas.
Mais en parlant de système de justice, Julia, Madame Nolin, jusqu'à preuve du contraire, elle n'a pas déposé de plainte contre Marie-Pierre Morin. Est-ce que le tribunal populaire peut se substituer au tribunal de justice?
Bien sûr que non, mais ce que le tribunal populaire peut faire, c'est d'exposer les failles de notre système de justice. Moi, je vois le tribunal populaire comme un genre de complément, comme quelque chose qui, oui, parfois fait plus, plus appel à l'émotion qu'à la raison, mais parfois aussi, la raison la raison sur laquelle nos systèmes se basent est erronée. Donc, on a besoin des deux, à mon sens. Certaines fois, oui, ça s'emporte, mais des fois, on se concentre plus sur les emportements que sur le fond de l'affaire. Puis dans le cas de l'affaire de Safia Nolin, le fond de l'affaire est assez choquant pour qu'on puisse se concentrer pratiquement juste sur ça.
Ouais. Ouais. Rémi, qu'est-ce que tu dis là-dessus?
Ben, je pense qu'il devrait pas y avoir de tribunal populaire.
Voilà.
Quand on utilise cette expression-là, c'est pour justement critiquer le fait que les gens se substituent au tribunal de justice. Safia Nolin aurait dû porter plainte si elle a été agressée. Elle aurait dû le faire, je l'encourage à le faire. Mais je pense pas que ça va respecter sa démarche de passer à autre chose. Par contre, mais si elle avait vraiment voulu faire les choses dans l'ordre, elle aurait dû porter plainte. Et le problème, c'est qu'il y a eu un tribunal populaire et il devrait pas y avoir de tribunal populaire.
Rémi, j'aimerais t'entendre sur le fait qu'aujourd'hui, on se pose la question, est-ce qu'on doit réhabiliter ou pas Marie-Pierre Morin? Est-ce que Safia Nolin a son mot à dire là-dessus?
Ben, je pense que elle a déjà un mot à dire et elle l'exprime déjà. Je pense pas qu'elle devrait avoir un pouvoir d'intervention, là, si c'est le sens de ta question.
Oui.
Je pense pas. Je pense que Marie-Pierre Morin, s'il y a des gens qui lui font confiance, si la population est prête à la voir dans des films, à la voir dans des séries, ben ça veut dire quelque chose. Et je pense que Safia Nolin ne devrait pas avoir un pouvoir discrétionnaire sur la réhabilitation de quelqu'un. Ça ne fonctionne pas comme ça, la vie. Si elle avait voulu que Marie-Pierre Morin soit punie par la justice, je me répète, mais il aurait fallu qu'elle porte plainte.
Julia, est-ce qu'on a bien fait de réhabiliter Joël Legendre?
Oui, Joël Legendre, c'est différent parce que si je me souviens bien, c'était la seule personne impliquée dans l'affaire. Donc, il n'y a pas vraiment de question d'un milieu qui a permis des comportements toxiques.
Il n'y a pas eu d'autres dénonciations pour Mme Morin, là, du moins pas ouvertement.
C'est vrai, tu fais bien de le rappeler, mais disons que n'importe qui gravite de près ou de loin du milieu de la télé, du milieu des arts, c'est très bien que, bon, ce serait étonnant que ce soit un cas isolé. Après, on n'est pas ici pour porter des accusations formelles, mais il y a vraiment quelque chose dans prendre un pas de recul pour voir la nuance puis voir la spécificité de chaque cas. Il y a certains cas qui nous donnent des informations sur le milieu en général. Il y a certains cas qui nous donnent des informations sur la personne plus précisément. Donc moi, je prends tous ces cas-là un peu de façon isolée. Mais Joël Legendre, c'est un peu différent. Puis bon, ça s'est un peu emporté. Ça me fait penser à cette histoire de Tiger Woods qui avait trompé sa femme. Puis ça a fait tout un cirque médiatique. Alors que bon, c'est quelque chose qui se passe plutôt dans l'intimité. Je sais pas, tout ça est vraiment compliqué. J'aurais besoin de comme 3 ans pour vraiment me faire une tête là-dessus. Puis, mais c'est ça, les joies de la radio, ils vont en parler le matin même, ce qui est aussi génial parce que, bon, on est capable de s'exprimer à chaud. Mais donc, oui, prendre les cas un par un, puis être critique par rapport à ce milieu-là, surtout.
J'aimerais vous entendre sur un tout autre sujet, le phénomène des graffitis à Montréal. On voit qu'il y en a beaucoup. Est-ce que c'est quelque chose que la ville devrait prioriser, la lutte aux graffitis?
Je pense que la ville attaque déjà, en tout cas de plus en plus, cette espèce de phénomène-là. J'ai lu quelque part que dans certaines agglomérations, le budget pour les effacer, parce que c'est la ville qui se charge de le faire gratuitement pour les commerçants, disons, a triplé, notamment au centre-ville et dans le plateau Mont-Royal. Mais il semble y avoir une espèce de... Il me semble, en tout cas, une espèce de complaisance autour des graffitis, parce que finalement, il y a 4 mythes autour des graffitis. Le premier mythe, c'est qu'on laisse croire que les graffeurs sont généralement issus de milieux défavorisés, alors qu'à mon avis, c'est faux. Moi, je veux dire, j'ai grandi, je le dis ouvertement, j'ai grandi dans un quartier favorisé, puis il y avait des gens issus de très bonnes familles qui faisaient des graffitis, parce que le graffiti, c'est une espèce d'étape de l'adolescence qui affecte autant les gens qui viennent de milieux défavorisés que les gens de milieux favorisés. Le deuxième mythe autour des graffitis...
Quand même, Rémi, on voit quand même moins de graffitis à Westmount qu'on en voit à Montréal-Nord.
Absolument, sauf que je pense qu'ils sont plus effacés à Outremont qu'à Montréal-Nord. Mais il y a des gens, et il y a effectivement plus... Attendez une minute, il y a effectivement plus de gens... issus des milieux défavorisés, mais ce n'est pas un phénomène qui ne concerne que les milieux défavorisés. C'est-à-dire que ça serait faux de dire que les graffitis, c'est la voie d'expression de gens issus de milieux défavorisés. Je ne serais pas d'accord avec cela.
Je suis d'accord avec toi. Julia, toi, qu'est-ce que tu en penses?
Ben moi, je suis tout à fait d'un avis contraire. Je me suis un peu penchée sur les travaux de Caitlin Bryce, qui est une chercheuse qui étudie les graffitis spécifiquement. Puis, elle fait remarquer le contraste de tolérance qu'on a envers les graffitis et envers les panneaux publicitaires. Les deux sont omniprésents dans la ville. Les deux sont érigés sans l'accord des citoyens. Les deux sont une forme d'expression publique et, en quelque sorte, deux formes d'expression publique qui se confrontent et qui s'opposent parce que, bon, ceux qui mettent la pub dans les villes, ce sont les plus riches, les plus puissants, évidemment. Mais ceux qui font des graffitis, c'est vrai. Ce sont ceux qui n'ont pas habituellement de place dans cet espace public. Ce sont des jeunes, bon, ça on peut l'admettre. Oui, c'est vrai, ce sont souvent des gens qui sont issus des milieux les plus pauvres, les plus racisés. Ça ne veut pas dire que c'est tous les gens qui font des graffitis qui le sont, mais c'est une grande majorité, du moins c'est ce qu'on dit dans la recherche. Et c'est des gens qui trouvent en cette forme d'art une façon d'occuper un espace public auquel ils n'ont pas accès autrement et de faire entendre leur voix. Donc moi, je vois cette forme d'art comme un genre de dialogue entre une ville et ses populations marginalisées.
Moi, j'ai grandi à Montréal-Nord et un quartier qui est défavorisé où c'est vrai qu'il y avait des graffitis autour de l'école, autour de la caserne de pompiers, dans des endroits publics. Et je me rappelle, quand j'étais jeune, que la ville avait installé dans les parcs, là où se tenaient le plus de jeunes, des grands panneaux et des panneaux qui invitaient les jeunes à faire des graffitis dessus. Puis ça devenait comme un des tableaux qui permettent aux jeunes du quartier de s'exprimer. Donc, plutôt que d'aller le faire sur le commerce du coin, les jeunes pouvaient aller dans le tableau qui leur est réservé pour pouvoir faire des graffitis. Et je trouvais ça très intéressant. Et là, il y a comme ce débat-là. Est-ce que le graffiti est un art ou est-ce que le graffiti, c'est une forme une petite violence urbaine, là, une petite rébellion, violence urbaine que font les jeunes? Qu'est-ce que vous en pensez?
Mais c'est intéressant ce que tu dis, Yasmine, parce que moi, je pensais aussi que ces panneaux-là pouvaient peut-être régler le problème, sauf qu'on a constaté que la ville de Montréal, dans les dernières années, elle a déployé plusieurs espaces comme ça. Elle a légué plusieurs espaces aux graffeurs. Mais ce qui est au cœur du graffiti, c'est l'illégalité. Et ils le disent. Là, j'ai écouté plein de reportages là-dessus où ils disent « Nous, c'est pas parce que tu nous donnes un mur qu'on va aller graffer là-dessus. Nous, on veut graffer sur la tour au sommet. Nous, on veut graffer par-dessus la vitrine du commerçant. » Donc, je sais pas si à Montréal-Nord, ça s'est bien passé, cette initiative-là. Probablement que le mur a été couvert. Mais quand il a été couvert, les gens en voulaient plus. Puis il y a un mythe autour du fait que les graffeurs ont un code aussi, hein. Il y a le fameux code un graffeur ne va jamais graffer par-dessus l'autre graffe. Ça, on remarque de plus en plus à Montréal que ce code-là n'existe plus. D'ailleurs, les murales qui sont faites par des graffeurs professionnels sont recouvertes de graffiti aussi. Donc c'est pour ça que je dis il y a une vision romantique du graffiti, mais il faut pas oublier que c'est un crime, hein, et que il faut lutter contre ça quand on est une ville, parce qu'il y a des gens qui se démènent toute leur vie, notamment à Montréal-Nord, pour s'ouvrir des commerces, qui émettent de l'argent de côté, des gens qui travaillent fort et qui se réveillent un matin et qui constatent qu'il y a un graffiti sur leur vitre. Imaginez la frustration que ces gens-là ressentent.
Julia, c'est quoi la solution?
Oui, moi, je trouve que c'est intéressant d'ouvrir le dialogue avec les graffeurs, de peut-être pas les mettre dans la case du vandalisme et de la criminalité si facilement, parce que c'est des gens qui, à travers l'histoire, ont eu des impacts majeurs dans le monde de la culture populaire, de l'art, de la mode.
On pense à Banksy, évidemment. Par exemple.
Bien sûr, Banksy, Basquiat aussi. Puis oui, c'est vrai, il y a toutes ces murales montréalaises qui sont faites par des personnes qui font aussi les graffitis sous les viaducs. Donc, c'est intéressant de leur laisser une place puis de pas les confiner à un rôle de bandits et de criminels, parce que finalement, ils font partie de notre paysage. Puis je pense pas qu'il y a une ville dans le monde bien vivante qui n'a pas de graffiti. Ça fait partie des dialogues urbains et codés qui existent. Puis moi, je trouve qu'il y a une certaine poésie là-dedans. Après, évidemment, faut pas voir ça comme une histoire romantique où tout le monde prend la parole dans l'espace public. C'est vrai qu'il y en a qui sont là vraiment juste pour faire le trouble. Mais je serais pas aussi catégorique que ça. Moi, je les vois pas tous comme des bandits.
Julia Pagé, Rémi Villemur, merci beaucoup. On se retrouve demain.
Merci.